franceinter.fr.
Bonjour cher Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Des millions de Français rêveraient de changer de vie. C'est ce qu'on lit cette semaine dans les colonnes de l'Express, qui propose un dossier d'une vingtaine de pages sur ce que l'hebdomadaire considère comme un phénomène. Repartir de zéro, tout plaquer, tout recommencer, et s'engager dans un nouveau parcours professionnel avec un objectif, s'épanouir enfin. Phénomène, disions-nous, pour preuve, le succès des bouquins consacrés au sujet. Je liste ici quelques titres. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Trembler, mais oser, mener la vie dont vous rêvez. Changer la vie, oui, c'est possible. Changer de métier pour changer de vie. Ou bien devenez ce que vous êtes. Des succès d'édition, auxquels s'ajoute le grand succès des consultants spécialisés dans la reconversion. Tout est possible, rien n'est écrit. Voilà ce que disent ces derniers, évoquant parfois le parcours de certaines célébrités. Le douanier Rousseau, par exemple. Avant de devenir peintre, il était commis au péage régulant l'entrée des marchandises à Paris. On connaît aussi le parcours de Walt Disney, qui avant de se lancer dans le dessin animé, fut vendeur de journaux ainsi qu'ambulancier. Quant à l'écrivain Marc Lévy, avant de se lancer dans les romans d'amour, il a passé 6 ans au sein de la Croix-Rouge et fondé par la suite un cabinet d'architecture. « Je voulais plusieurs vies en une », explique de son côté l'ex-avocate aujourd'hui humoriste Caroline Vigneault. Elle a quitté le barreau pour monter sur scène et son one-woman show a déjà attiré plus de 250 000 spectateurs en France. D'autres témoignages dans l'Express. Un conducteur d'engin devenu massothérapeute, une géologue devenue enseignante en collège, un informaticien devenu restaurateur ou un cadre de PSA devenu sculpteur sur pierre dans un village du Perche. En termes de salaire, il a beaucoup perdu, mais en qualité de vie et en rythme de vie, il a beaucoup gagné. Et à lire son portrait, on comprend qu'il est épanoui.
Changer de vie, c'est aussi ce que vont devoir faire les députés battus lors des législatives.
Mais là, bien sûr, ça n'est pas franchement un choix de vie. C'est une reconversion contrainte. Et c'est l'amertume qui domine chez ceux qu'ont rencontré les journalistes du Monde. Titre de l'article, le difficile retour au réel des députés battus. Certains pourtant se préparaient à leur défaite. Parfaitement conscients du désir de renouvellement, ils s'étaient préparés à la claque électorale, mais sans pour autant préparer leur avenir. D'où l'amertume donc et le blues qu'ils ressentent aujourd'hui. Un blues accentué par le fait d'avoir été devancé par des candidats sans aucune expérience politique. Ainsi qu'en témoigne un ancien député socialiste. « Ma génération a déjà connu des défaites très lourdes, dit-il, mais quand on était battu, c'était souvent par des adversaires qui avaient une légitimité militante et locale. Or là, on a été dégagé par des gens débarqués quelques semaines seulement avant le premier tour. » Et il apparaît que c'est encore plus humiliant. À 57 ans, poursuit-il, faut que je cherche du travail, ça va pas être facile. Même âge, même désenchantement pour cet ancien député Les Républicains. Avant l'Assemblée nationale, il était chef d'un service de cardiologie. Or, il n'y a plus de place pour lui dans son ancien service. D'ailleurs, le retour à la vie professionnelle est surtout compliqué pour ceux qui, avant d'être élus, exerçaient dans le privé. Tous ceux qui sont issus de la fonction publique devraient retrouver leur poste. Mais pour les autres, désormais, c'est donc direction Pôle emploi. Cela dit, peut-être que s'ils lisent l'Express de cette semaine, ils trouveront des pistes de reconversion, massothérapeute, restaurateur, tailleur de pierre ou se lancer dans le one-man show.
Et c'est donc ce dimanche qu'a lieu le second tour des élections législatives.
Et bien sûr, le sujet fait la une ce matin de quasiment tous les journaux. Même titre pour La Voix du Nord et le Courrier Picard qui évoquent le dernier round, 772 duels et une triangulaire précise de son côté l'Union. Tandis que l'Est éclair s'interroge, qui résistera à la vague En Marche ? Et le quotidien d'indiquer que si les candidats se présentant sous les couleurs de la majorité présidentielle ont actuellement le vent en poupe, leurs adversaires espèrent un sursaut aujourd'hui, des adversaires que l'on retrouve dans le dossier du JDD, responsables politiques, responsables syndicaux. L'hebdomadaire dresse la liste et les projets de ceux qui vont dire non au pouvoir de Macron, ce qui attend la majorité Macron, ça c'est le titre à la une du Monde, qui nous explique que, comme le veut la tradition, le Premier ministre Édouard Philippe remettra en début de semaine la démission de son gouvernement pour être aussitôt chargé par le chef de l'État d'en former un nouveau. La nouvelle équipe attendue dans les prochains jours ne devrait pas être bouleversée, nous dit-on, mais des ajustements seraient prévus pour combler des manques ou décharger certains ministres. À l'Élysée, on parle ainsi de l'arrivée de 4 à 6 secrétaires d'État, ainsi que des hauts commissaires. Et si l'on en croit le quotidien, l'exécutif aurait prévu de continuer son travail de sable de la droite en nommant des nouvelles têtes principalement issues du parti Les Républicains. À propos des Républicains, je vous conseille la lecture du récit détaillé de Laurent Valdiguier dans le journal du dimanche. Pour la première fois, Dixit l'hebdomadaire. Les proches de François Fillon racontent les réunions de crise au QG du candidat pendant que les affaires s'amoncelaient. Confidence notamment d'Anne Méo, sa communicante. Elle dit ce qu'elle a tenté de faire et tout ce qui lui a échappé. Et c'est ainsi qu'on apprend que le soir des premières révélations embarrassantes du canard enchaîné, l'équipe du candidat était en train de fêter la galette des rois. Dans la galette, bien entendu, il y avait une fève. La fève, c'était un chat noir. Mauvais présage, évidemment, mais si l'on en croit le journal, François Fillon, lui, reste persuadé que quelqu'un a guidé ses accusateurs, persuadé que quelqu'un a déclenché, voire orchestré les affaires qui ont ruiné sa campagne, une campagne du chat noir. Comme le titre l'article, les Fillon se demandent toujours qui se cache derrière le chat.
Et puis l'autre question du jour, c'est celle de l'abstention.
Elle avait battu un record au premier tour, plus de la moitié des inscrits, et pourrait être encore plus massive aujourd'hui, législative, le spectre d'une très forte abstention. Commente le Télégramme alors que le Parisien dimanche se demande s'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire afin d'endiguer la tendance et de faire en sorte que les électeurs cessent de bouder les urnes. L'important c'est de participer, implore le Quotidien, rappelant que si voter est un droit, c'est aussi un devoir civique et d'ailleurs c'est inscrit sur les cartes électorales. La question de l'intérêt de rendre le vote obligatoire mérite d'être posée, écrit Stéphane Albouy dans son édito. Cette idée permettrait, dit-il, de prendre en compte le vote blanc et elle pourrait aussi s'accompagner de la contrainte de convoquer de nouvelles élections si plus de la moitié des votants choisissaient cette option, le vote blanc. Et puis, poursuit-il, elle nous éviterait les sempiternels débats en légitimité que les perdants mettent en avant les jours de déroute électorale. D'ailleurs, conclut-il, nous ne devrions pas y échapper ce soir. Dernier mot sur les législatives. Tous les journaux reviennent ce matin sur l'interpellation de l'homme qui s'en est pris à Nathalie Kosciusko-Morizet cette semaine sur un marché parisien. L'agresseur présumé est un maire normand, relève la presse de la Manche. Un maire de l'Eure, en l'occurrence. Et je vous signale l'excellent dessin que Plantu a diffusé hier sur les réseaux sociaux, accompagné d'un juge et d'un homme en képi. Le procureur s'explique devant les journalistes et voilà ce que le dessinateur lui fait dire. La police a interrogé la personne qui a agressé Nathalie Kosciusko-Morizet. Le début de l'enquête nous amène à penser qu'il s'agit d'un con. Et pour arriver à cette première conclusion, j'ajoute qu'on n'a même pas eu besoin de faire appel à des graphologues.
Dites des gros mots à l'antenne, vous.
Oui, pourquoi pas. Et Donald Trump va-t-il également être contraint de changer de vie? En tout cas, l'éventualité de sa destitution continue de nourrir les débats. Il est soupçonné d'entrave à la justice et la menace grandit, annonce le JDD, précisant que 3 dirigeants des services de renseignement doivent être entendus cette semaine. Interview de Gene Dean, ancien conseiller de la Maison-Blanche sous la présidence Nixon. Il fut l'un de ceux qui mit au jour le scandale du Watergate. Et à ses yeux, ne pas destituer Donald Trump serait un pur scandale, mais cela pourrait bien sûr prendre un peu de temps. Et puis pour finir, une info culturelle. Piogée dans les colonnes de National Geographic, voir un tableau avec les doigts. S'il est incapable d'observer la couleur, la composition et la lumière d'une œuvre, comment un aveugle peut-il l'apprécier? Eh bien en la touchant tout simplement. Un ancien photographe et son équipe ont reproduit des tableaux en 3D. Et quand un aveugle de 13 ans a touché une reproduction en 3D de la Joconde de Léonard de Vinci, il dit avoir immédiatement remarqué son sourire. Il y a donc des gens qui décident de changer de vie, ils se choisissent une autre vie, et puis d'autres qui décident de changer la vie des autres. Et ça, c'est encore plus bouleversant.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.